Bonjour à toutes et à tous. On va ouvrir la Bible ce matin dans Jean 15. Et on va lire les versets 14 à 16. Alors on va commencer à 12. Je peux pas commencer à 14, c'est mieux de commencer à 12. Mais voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors je ne vais pas faire une exégèse du texte. En ce moment, on a un peu la liberté, on n'est pas dans les textes comme on l'a fait pour les Actes ou pour l'Évangile de Jean. On a cette liberté de sujet dans nos prédications. Bon, ça change un peu. Et j'ai décidé d'apporter ce matin un thème qui me tient particulièrement à cœur, non pas celui des Premières Nations, mais je sais, mais celui de l'amitié. En fait, j'ai lu un court article d'un professeur de philosophie et d'apologétique à la faculté de théologie de Dallas. Et ce professeur donc s'appelle Paul Gould, et le sujet de son article s'intitule « L'amitié selon C.S. Lewis ». Alors, je vais vous le lire, c'est court, mais je vais développer un petit peu ça. Alors, je commence, donc je cite « La mort de l'amitié authentique est l'une des marques de cet âge numérique. Les relations d'aujourd'hui sont très largement pixelisées, et se mesure par la longueur d'une série de Snapchat ou par le nombre de « j'aime » reçus sur Facebook. Ce fléau de superficialité s'étend à mesure que nous oublions comment regarder l'autre dans les yeux, comment soutenir une conversation ou tout simplement comment être ensemble. La conséquence n'est autre qu'une épidémie de solitude. Or, la solitude n'est pas ce que Dieu avait en tête lorsqu'il nous a créés. Nous avons été créés pour connaître et pour être connus. Nous avons été créés pour être en relation avec d'autres, pères et enfants, mères et filles, mari et femme, amis et amour, créateurs et créatures. Si l'amitié est un grand bien ayant une valeur intrinsèque, elle possède aussi un intérêt pratique. Ça commence bien, hein? Ça commence bien. Plusieurs éléments ressortent tout de suite de cette courte introduction. Tout d'abord, celui de la société dans laquelle nous vivons et qui, vraisemblablement, ne s'améliorera pas. Peut-être, hein, quoi qu'il puisse y avoir une prise de conscience des générations futures, hein, on va rester optimiste quand même. Mais pour Paul Gould, donc, il qualifie lui-même l'amitié de pixelisée, un fléau de superficialité. Vous savez ce que ça veut dire, pixelisée? Vous avez déjà vu une image une image, elle a des pixels, c'est-à-dire qu'elle a, elle a une qualité. Et plus elle a des pixels, et plus elle est limpide. Et moins elle a de pixels, hein, arrêtez-moi si je me trompe, plus elle est floue, ça fait des petits carrés, pour ceux qui font un peu du travail numérique sur photo, ça fait des petits carrés, et on voit de moins en moins. Il faut la rendre plus petite pour la voir à la limite. Et plus on l'agrandit, et moins on la voit. Et donc, je pense que ce qu'il veut dire, là, Paul Gould, c'est que on a beaucoup de communication aujourd'hui, beaucoup de moyens, en tout cas de communication, mais le fond n'y est plus. Alors j'ai fait quelques recherches, Vous allez voir combien c'est intéressant. Par exemple, les Français sont de grands utilisateurs de multimédia. Ils regardent des DVD pour 40% et encore plus de films en streaming. Ils aiment les dernières technologies. Ils montent leurs propres films, surfent sur Internet. En 2009, on est en 2016, hein, ils étaient déjà 43%. Vous imaginez. Donc, les Français s'inscrivent dans des forums de discussion. Ils se retrouvent, comme on dit, sur la toile, hein, entre passionnés, parfois entre célibataires. Les Français utilisent de plus en plus leur téléphone portable en matière de technologie. Et c'est vrai qu'ils deviennent hyper performants, hein, les derniers téléphones portables. Ils envoient des SMS, des MMS, il y a WhatsApp, on peut se filmer, enfin, on peut se parler en direct. Et finalement, ça nous permet de communiquer de plus en plus à distance. Et j'ai bien dit le mot, à distance. On communique plus à distance. Et au travers d'une étude sur le téléphone portable, il y a un autre philosophe, un psychanalyste, qui s'appelle Miguel Benasayag, qui décrit donc avec pertinence certains paramètres relationnels de notre société qui sont vraiment en danger. Et je pense que nous devons y être attentifs, surtout si nous voulons avoir une longueur d'avance, en tout cas en tant que chrétiens, dans notre témoignage et l'annonce de l'Évangile. Et le relationnel est à l'honneur. Il est à l'honneur. Concert en plein air, ça c'est ce que les chrétiens font habituellement. Distribution, porte-à-porte, événementiel, etc. On peut faire des tas de choses. Des tas de choses pour essayer de toucher les gens. Mais le problème, c'est que ça n'impacte plus vraiment nos contemporains, tout ça. Parce que déjà, les gens sont assaillis par des publicités, des sollicitations diverses, etc. Et déjà, ils trouvent bizarre que nous organisions quelque chose pour eux. Et comme ils savent très bien qu'il y a un coup fourré, c'est comme quand vous voyez le gars arriver dans la rue avec un truc, « Vous avez quelques minutes, s'il vous plaît? Je peux vous poser quelques questions ?» Alors déjà, tu le vois de loin, le mec, là. Tu le vois, tu fais « Bon, allez, je vais changer de trottoir. Ce qui va me brancher, c'est bon, quoi. Et j'ai pas le temps, j'ai pas envie, ça me saoule. » On est tous comme ça, hein. Et quand tu entends sonner à la maison, que tu regardes, là, que tu vois le gars devant qui t'attend comme ça, tu vois, avec son stylo, tu te dis « Bonjour, moi, j'ouvre pas, j'ai des trucs à faire, un quart d'heure, 10 minutes. » Tu ouvres, les gens au téléphone, entre midi et deux. T'es en plein repas, quoi. T'as bossé toute la matinée, c'est le moment de te mettre à table, bingo, t'es à table, t'as le téléphone qui sonne. Alors tu te dis « Bon, putain, c'est quelqu'un, de la famille, etc. » Tu réponds et puis t'oses pas dire « J'ai pas le... » T'oses pas raccrocher, quoi. Alors, hein ? C'est énervant. Et c'est vrai que, voilà, on en est tous là, et quelque part, il faut se poser des questions. Donc tout ça fait que les gens se sentent traqués d'une manière ou d'une autre, ils sentent le coup fourré. On est bien loin de l'armée du salut, et quoi que l'armée du salut, avec la grosse marmite et les champs traditionnel, ça avait une raison d'être dans le sens où ils faisaient une récolte d'argent, où il y avait un but, un objectif. Mais souvent, s'il n'y a pas d'objectif derrière, les gens, on va leur sembler un petit peu louches. Bref, le problème en fait, c'est que le relationnel est en train de foutre le camp, même dans l'église. Et ce petit appareil que j'ai là, tu vois, prend beaucoup trop de place dans la vie dans ma vie et dans la vie de mes contemporains, j'en suis convaincu. Donc je cite Miguel Benasayag qui dit « Je me suis intéressé au phénomène du téléphone portable parce qu'il est paradoxal. Son développement et son utilisation exagérée ont conduit à la destruction de liens sociaux. C'est là que se situe le paradoxe. L'outil de communication a mené à l'isolement. Les technologies ont toujours modifié les rapports sociaux et l'inverse est aussi vrai. » Mais le fait est apparu, alors que notre société a une tendance générale à s'isoler, le modèle des sociétés industrialisées repose sur la consommation, la carrière personnelle, le chacun pour soi, etc. Les liens sociaux sont en permanence mis à l'épreuve, attaqués, cassés. Ils sont remplacés par une communication unidimensionnelle avec le développement massif d'outils comme le téléphone portable, Internet ou les webcams qui donnent la sensation de communiquer plus, mais ne créent pas de liens. Ne créent pas de liens. Le lien social ne disparaît pas totalement, mais il continue d'exister seulement dans ses dimensions utilitaristes, sécuritaires ou de profit. Notre modernité est aujourd'hui dominée par la crise et la peur de l'avenir, ce qui n'était pas encore le cas il y a 40 ou 50 ans, et qui s'est aggravée ces dernières années, il faut le dire. Cette peur qui s'exprime selon son cœur et sa raison conduit à l'isolement familial ou individuel. Le projet de modèle social occidental a échoué. Il promettait une société de justice, de savoir, la maîtrise de la nature. Rien de cela ne s'est réalisé. Reportage. Le reportage. Le projet de modèle occidental a échoué. Que dit la Bible, finalement, de l'amitié, du lien social, des relations, plein de choses. C.S. Lewis nous dit, je cite, « On peut affirmer que les amitiés possèdent un intérêt pratique pour la communauté. Chaque religion a commencé par un petit groupe d'amis. Les mathématiques ont vu le jour lorsque quelques amis grecs se sont réunis pour parler de nombres, de lignes et d'angles. Ce qui est désormais la Royal Society, l'équivalent de l'Académie des sciences en France, n'était à l'origine que quelques personnes se réunissant pendant leur temps libre pour discuter de choses dont eux et d'autres avaient un goût prononcé. Ce que nous appelons désormais le mouvement romantique consista un temps en M. Wordsworth et M. Coleridge parlant sans arrêter, enfin surtout Coleridge, de leur vision secrète commune. Cette puissance pratique de l'amitié pointe vers deux vérités. Il y a deux vérités derrière. La première, c'est que nous nous développons au travers des relations avec les autres. On s'en rend plus vraiment compte aujourd'hui, mais nous nous développons au travers de nos relations avec les autres. Comme le rappelle aussi Lewis, il dit « L'amitié n'est pas une récompense sanctionnant notre capacité à discriminer et notre bon goût dans notre manière de choisir l'autre. Il s'agit de l'instrument par lequel Dieu révèle à chacun la beauté de tous les autres. » Je le répète, l'amitié n'est pas une récompense sanctionnant notre capacité à discriminer et notre bon goût dans notre manière de choisir l'autre. Il s'agit de l'instrument par lequel Dieu révèle à chacun la beauté de tous les autres. Nous avons été créés comme des créatures sociales. Nos relations avec Dieu et avec les autres alimentent et enrichissent nos vies. Notre relation, ta relation avec Dieu, enrichit ta vie. Ta relation avec l'autre enrichit ta vie. Ce matin, on a eu des beaux chants. Je me suis dit, pétard, on a un bon niveau, quand même. Enfin, pour ceux qui étaient là il y a 10 ans, je peux vous dire qu'il y a vraiment un bon niveau, un très bon niveau. Mais j'ai réalisé aussi que tout n'est pas là. Parce que quand on chante, remarquez bien, dans nos milieux et puis dans les concerts bien évangéliques, on est tous là, debout, l'un à côté de l'autre. Mais finalement, personne ne se regarde. On regarde l'écran. On entend des chants, alors on peut s'exprimer, on se laisse imprégner par le chant, on peut... C'est beau. Mais... on a nos regards fixés sur un écran, les amis, et pas sur l'autre. Ça me fait lever les bras au ciel de chanter. En tout cas, ça élève mon cœur. Mais quand je regarde mon frère et ma sœur, créature de Dieu, est-ce que j'ai envie de lever les bras au ciel aussi? Ou est-ce que j'ai envie de dire, oh là là, Oh là. Ou en disant, oh là, Seigneur, j'en peux plus. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. La louange, l'adoration est quelque chose de... Comment dire, ne se situe pas qu'autour du chant et de l'écran. Elle se situe au travers de ta relation avec la création, ta relation avec la créature, notre relation avec le monde qui nous entoure, avec l'air, la pluie. J'ai un ami, d'ailleurs, que vous connaissez, Jean-Luc Tabayou à Grenoble, qui est pasteur d'une église de père en fils depuis je ne sais plus combien d'années. Et il a mis une petite photo d'une araignée qu'il a trouvée chez lui, qui doit faire à peu près, je ne sais pas, bon morceau, quoi, 10 cm à peu près. Et t'avais les gens, ils étaient horrifiés. Oh là là, tu l'as tué au moins, tu l'as noyé. Hein, tu l'as... Ah, c'est dégueulasse. Et je me suis dit, mais pourquoi on réagit comme ça? C'est une créature de Dieu. Ben oui. Si on réfléchit que Dieu a créé ça, on se dit, mais c'est beau. C'est quand même complexe. C'est pas... Bon, ça fait flipper. Mais bon. Alors, on lève pas les bras au ciel. Bref. Deuxièmement, nous impactons le monde pour le meilleur et pour le pire, ou pour le pire, lorsque nous nous assemblons avec d'autres autour d'une cause qui transcende le simple individu. Parce que finalement, nous avons une cause commune. Nous avons une cause commune. C'est la cause. Et C.S. Lewis précise que les petits noyaux d'amis prêts à tourner le dos au monde sont ceux qui le transforment réellement. Alors, je ne sais pas comment il faut le prendre, ça. Mais les petits noyaux d'amis prêts à tourner le dos au monde sont ceux qui le transforment réellement. Et il nous faut prendre en compte vraiment cette aspiration profonde de notre être, hein, de qui nous sommes, d'être humain. Nous voulons tous que nos vies comptent, non? Qui ne veut pas que sa vie compte? Y a-t-il quelqu'un ici qui, finalement, ne désire pas que sa vie compte? Est-ce que l'un d'entre nous ne désire pas laisser quelque part un peu des traces, un souvenir pour la gloire de Dieu? Mais c'est important. Et paradoxalement, le plus grand impact que nous puissions avoir ici-bas se produit lorsque nous abandonnons notre quête d'auto-affirmation, d'auto-exaltation, et nous trouvons la joie et le plaisir dans notre association avec d'autres autour d'une cause. Nous avons besoin les uns des autres. Je me disais, en réfléchissant sur ce texte et sur l'amitié, que le Seigneur nous dit, vous êtes mes amis maintenant, je réalise finalement qu'il m'est impossible de partir en mission ou de faire quoi que ce soit sans les autres, sans mes amis, sans des amitiés profondes, authentiques. Impossible de s'engager vraiment, de se mettre à la disposition de personnes qui ont vraiment des besoins, qui ont vraiment des difficultés, des soucis, des problèmes, si on n'est pas accompagné d'amis, encouragé par des amis. Bien sûr, la cause principale qui nous fait bouger, c'est l'Évangile. Ça, c'est la cause principale. L'Évangile nous fait bouger. C'est notre point commun. C'est notre cause. Est-ce qu'il existe une cause suffisamment importante pour susciter des amitiés authentiques et transformer le monde ? Est-ce qu'il existe une cause plus importante que celle-là qui pourrait nous encourager à développer des relations authentiques, des vraies relations? Jésus nous invite à le rejoindre avec tous ceux qui le suivent afin de vivre une vie qui glorifie Dieu et qui nous remplisse tous. Il y a un verset dans la Bible qui exprime, à mon avis, le mieux l'évangile et l'évangélisation. L'évangile et le fait d'apporter l'évangile. Un verset. on l'a lu. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça exprime l'évangile, parce que Jésus, Dieu, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et je reconnais que ce n'est pas simple. C'est plus simple d'organiser un concert. On téléphone à un groupe, on choisit en fonction des gens qu'on va inviter. Pas des gens virtuels, hein, des vrais, en chair et en os. Et après, on les invite. Et puis on fait venir le groupe, on le fait venir un jour avant, on s'arrange pour les loger. On fait les répétitions, mettons le samedi matin si le concert a lieu le samedi soir. Le samedi soir à 8h, on distribue. 8h, il y a le concert. Les gens viennent, ils ne viennent pas. C'est une réussite, c'est un fiasco. À 10h, on ferme. Minuit, allez, on fait un apéro juste après. On ferme à minuit, on rentre chez soi, ils reprennent le train le lendemain, et c'est bon, on a fait l'évangélisation. Combien d'églises, combien de communautés font ça? Je suis à France Évangélisation depuis 2002. Combien de fois j'ai été invité dans des communautés pour annoncer l'évangile? Là, dernièrement, j'ai refusé une communauté à Metz. Il fallait que j'aille à Metz pour deux réunions. J'ai dit, vous n'avez personne pour faire deux réunions à Metz? Je ne suis pas magique, moi. Et on est dans ce truc-là. Et finalement, ce qui a d'essentiel dans les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres, ce qui impacte les gens autour de nous, ce qui impacte vraiment les gens autour de nous, parce que les gens, quand ils voient combien on s'aime, ils réalisent que nous sommes les disciples de Jésus. Alors peut-être on va dire, ouais, mais on ne s'aime pas assez. Ouais, mais je sais, c'est sûr, on ne s'aime pas assez. Je me dis la même chose dans ma vie de couple, je me dis la même chose dans ma vie de famille. On ne s'aime jamais assez. Mais en tout cas, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie, finalement, c'est s'investir, s'engager envers l'autre, se rendre disponible. Et c'est beaucoup plus difficile, c'est sûr, que d'organiser. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire tout le reste, hein, mais ça, c'est la base. Et on ne peut pas remplacer le reste par la base. C'est l'exemple que Dieu nous a donné au travers de son Fils. C'est aussi ce qu'il veut faire au travers de nous. On prend soin de notre santé, on met parfois, si on peut, de l'argent de côté pour des projets, on aménage nos maisons. Mais finalement, quel temps on prend pour grandir, faire fructifier, renouveler l'amitié? Et si nous voulons vivre l'Évangile et le faire découvrir à ceux qui nous entourent, dans l'Église et hors de l'Église, on doit finalement se poser des questions. Est-ce que nous donnons la priorité à nos relations? C'est pas... La relation, c'est dérangeant. Parfois, ça ne s'improvise pas. Ça arrive comme ça. Il y a à peu près 15 jours, je reçois un coup de fil, il était 11h du soir, d'un voisin. J'étais déjà en pyjama et tout, j'étais prêt à aller au lit, quoi. Et il m'appelle, il me dit, mais Daniel, il me dit, écoute, j'ai un souci, je t'appelle à toi, est-ce que tu peux pas me rendre service? Je suis tombé en panne de voiture et je dois emmener mon fils à Nice parce qu'il fait ses études là-bas et... Bon, est-ce que vous ne pourriez pas me prêter une voiture? Là, je suis tombé en panne, j'ai l'assurance donc le ramener chez lui, donc à côté de chez moi, et il avait besoin d'une voiture pour ramener son fils. Alors, ça a été, au premier abord, je me suis dit, waouh, bon, tu vas aller te coucher plus tard là. Bon, tu es en pyjama. Bon, tu ne vas pas y aller en pyjama. Moi, je lui prête la voiture. Ouais, mais on ne sait jamais, c'est la voiture, ouais. Et du coup, bon, j'ai dit, écoute, tu viens, je t'emmène. Et puis après, j'ai commencé à réaliser, je me suis dit, mais c'est quand même génial ce qui m'arrive là. Ah, je vais à Nice à 11h du soir. Avec un pote, on va discuter dans la voiture, ça va être cool quoi. Et c'est vrai, c'était vraiment cool. Hein. On a pris la voiture, il n'y avait personne sur la route, on a papoté. Du coup, avant de le ramener, on a amené son fils, avant de le ramener chez lui, on s'est arrêté dans le parking et on a continué à discuter. Vous voyez, ça m'a pris plus de temps que d'organiser un concert, quoi. Mais l'idée est là, vous m'avez compris. On n'a pas envie d'être dérangé finalement, on a un programme. Le proverbe dit « L'huile et le parfum réjouissent le cœur et la douceur d'un ami vaut mieux que les conseils qu'on se donne à soi-même. » J'ai quatre questions. Quatre questions que je me suis posées, que je nous pose. Avons-nous au moins une personne proche que nous pouvons appeler en cas de détresse personnelle? Avons-nous une ou plusieurs personnes à qui nous pouvons rendre visite sans pour cela les prévenir 10 mois à l'avance et sans devoir nous en excuser? Avons-nous une ou plusieurs personnes avec qui nous pouvons aller au cinéma, faire du sport, des sorties, parler d'une chose et d'autre? Pouvons-nous, en cas de besoin, compter sur l'appui financier, moral et pratique de quelqu'un? Vraie question. Parce que si nous ne pouvons pas répondre à ces vraies questions, notre évangélisation, elle va être amputée d'un bon morceau. Parce que si nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous n'avons aucune réponse à ces questions, des questions fondamentales que les gens vont être en... Comment dire? Bien sûr qu'ils vont découvrir qu'on a des beaux chants, qu'on fait des bonnes agapes, qu'il y a des bonnes tartes, des bons plats, etc. Bien sûr qu'ils vont découvrir tout ça. Ça va être génial. Mais ça, au fond d'eux-mêmes, c'est ce dont ils ont besoin. Et si nous ne sommes pas prêts à répondre à ces besoins les uns avec les autres, comment pouvons-nous répondre aux besoins des autres? C'est bien beau de leur dire, tu sais, Jésus, il est mort pour toi. Je te garantis, il a versé son sang pour toi. Ah ouais, c'est vrai. Ah, les gens, ils vont te dire, ouais, s'ils sont bien amis avec toi, ils vont dire, ah ouais, ça m'intéresse. Mais est-ce qu'ils peuvent compter sur nous? C'est la grande question. Parce qu'autrement, notre message est complètement décalé à ce que nous vivons. Complètement. Alors, c'est bien connu que le temps nous interdit d'avoir des relations avec plusieurs personnes. C'est difficile d'avoir des vraies relations authentiques, etc., avec tout le monde. C'est pas possible. Mais une amitié, quelques amitiés authentiques ont besoin d'être entretenues pendant des années. Pour entretenir une amitié, il faut plus qu'un dîner de temps en temps, plus que quelques heures de balade ou de dialogue ou des cultes où on chante les chants formidables. Si notre agenda est trop rempli et nous empêche d'avoir des moments d'intimité avec nos amis, il faut absolument que nous fassions quelque chose. Je vois des églises, ils ont un agenda aussi épais que ce bouquin. Les gens n'ont plus le temps de se voir. Ils se voient qu'au travers des organisations qu'ils ont dans l'église. Organisation de ceci, organisation de cela. C'est tout le temps. Tout le temps. Et ils ont l'impression d'être spirituels et que c'est vraiment ça l'église. Mais c'est épuisant. C'est épuisant. Sincèrement, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Il faut supprimer les choses inutiles et secondaires. Une parole de Job à ses faux amis m'a beaucoup interpellé. Il a dit, « L'homme désespéré a droit de la compassion de la part d'un ami, oui, même s'il cessait de révérer le Tout-Puissant. » C'est intéressant, ça. C'est magnifique. « Est-ce que tu vas rester mon ami si demain, pour une raison ou pour une autre, tu vas cesser de venir à l'église ?» Tu vas arrêter de prier, tu vas arrêter de louer Dieu. Hein? S'il m'arrive ça demain, est-ce que je suis encore ton ami? Ça, c'est une vraie question. Hein? Ça, c'est une véritable question. Parce que la réponse que tu donnes à cette question montre l'efficacité de ton évangélisation. Eh ouais. Parce que si tu ne peux pas répondre affirmativement à cette question, ça veut dire que la personne que tu évangélises, tu fais des scalps, quoi. Tu as peut-être un endroit où tu fais des croix. Il est venu à l'église. il s'est converti. Lui, il est allé un peu, mais après, il a laissé tomber. Lui, je l'ai invité à un repas, il ne veut plus venir. Lui, il vient tout le temps. Tu vois ? Waouh ! Parfois, je me demande si dans notre théologie, si nous n'avions plus le ciel, ok ? Plus d'enfer. Plus de ciel, plus d'enfer. Est-ce que tu continuerais à être chrétien et à venir ici ? C'est pas une vraie question, ça ? Imagine, pas de ciel, pas d'enfer. Est-ce que tu continues à vivre ta vie en tant que disciple de Jésus ? Là, ça me pose vraiment une question. 1 Corinthiens 13, qu'on connaît tous, hein, je l'ai noté en paroles vivantes. Celui qui aime est patient, il sait attendre, son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance, il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, on n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Alors c'est sûr, nous avons tous plus ou moins ces défauts, parce que ces défauts qu'on a, hein. Faut pas dire ça ne me concerne pas, ça nous concerne tous. Le problème, c'est que dans une certaine mesure, ils peuvent devenir destructifs. Par exemple, quelqu'un d'accapareur, c'est une personne qui a tendance à vouloir contrôler les autres. Souvent, ce défaut se cache sous le couvert d'un soi-disant amour. Mais si je fais cela, c'est pour ton bien. Si je te corrige, c'est pour ton bien. Celui qui corrige ses amis pense qu'il le fait pour leur bien. Mais peut-être que ça étouffe son ami. Et finalement, on se détache de quelqu'un qui est autoritaire vis-à-vis de nous. Réfléchissons dans notre vie. Les gens pour lesquels, enfin en tout cas envers lesquels nous nous sommes détachés, de manière relationnelle, c'est des gens qui étaient trop autoritaires. C'est des gens qui t'étouffaient. Quels sont les amis dont vous vous êtes séparés ? Ne sont-ils pas justement ceux qui ne cessaient de vous donner des conseils, des leçons à tout bout de champ, de vous dominer, de vous manipuler, de vous juger ? Un sage a écrit cela au cœur de l'amour, il y a un secret tout simple. Celui qui aime, laisse le bien-aimé libre. Et je sais que mon Seigneur, il est comme ça. Le Seigneur en qui nous croyons est comme ça. Il nous laisse libres. Il n'est pas accapareur. Il n'est pas tout le temps en train de nous corriger, nous donner des conseils. Il essaye, en tout cas, il nous aide à nous épanouir, à grandir et surtout à devenir libres. Il y a deux désirs au fond de chaque être humain, et je crois que Jésus les exprime formidablement bien. Le premier, c'est d'avoir des relations avec ses semblables. C'est ce que Jésus n'a pas cessé de faire durant toute sa vie. Il y avait des hommes et des femmes. Il est dit que même certaines femmes assistaient les disciples de leur bien. Et je peux vous assurer, hein, depuis tant d'années que je suis dans le ministère, je pense que les femmes ont quand même pas mal de points d'avance sur le soutien. Je vous assure. Je pourrais même vous le prouver. Et le deuxième point, c'est le désir d'être libre. Donc le premier, c'est le désir d'avoir des relations avec ses semblables et le désir d'être libre. Ça, c'est ce qui est au fond de notre cœur. C'est au fond du cœur de chaque être humain. Tous les gens autour de nous, ils ont ces deux désirs. Même les gens qui sont ancrés, embourbés dans la religiosité, qui sont dans des traditions, des trucs qui les rend religieux, normatifs, ils ne peuvent pas vivre comme ça. Ils ne peuvent pas vivre. Ils vous montrent ce visage, mais à côté, si vous grattez un peu, vous allez vous apercevoir que c'est pas si rigide que ça. C'est souvent rigide pour les autres, mais pas pour eux-mêmes. Il y a une façade. Et lorsque des amitiés volent en éclats d'un seul coup, c'est souvent parce que l'un de ces désirs n'a pas été respecté. Lorsque l'un des deux est manipulé, enfermé, étouffé par l'autre, ça pète. Alors, je ne sais pas, peut-être en psychologie, il y en a qui seraient plus à même de pouvoir répondre à ces questions, mais c'est vrai qu'il fut un temps où on encourageait les gens à être plus agressifs, plus intimidants pour devenir un leader. On est un peu dans ce monde-là. Pour être le premier, il faut que tu aies du charisme et que voilà, tu en imposes. Le problème, c'est que l'intimidation ne peut pas nous faire gagner vraiment des amis et ne nous aide pas à construire des véritables amitiés. Les relations humaines, ce n'est pas un champ de bataille. On n'est pas là en train de faire les bras de fer. Et l'amitié, elle ne se construit pas sur l'intimidation ou la domination, sous quelque forme que ce soit. Il y a un proverbe de la sagesse juive que j'aime bien qui dit « Ne raconte rien ni d'un ami ni d'un ennemi, à moins que le silence ne te rende complice. » Ne révèle rien, car il pourrait t'entendre et se méfier de toi, et le moment venu, il te montrerait sa haine. Autant des pharisiens, autant de Jésus, on peut donner cet exemple, les pharisiens avaient tendance à critiquer tout le temps. Ils avaient une piété vinaigrée, aigre, et repoussaient les gens. Ils considéraient surtout le péché des autres, pas les leurs. Et la différence avec le saint, c'est que le saint considère ses propres péchés. D'abord, les gens n'ont pas besoin de plus de sentiments de culpabilité, mais de salut. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc. Il y a l'évangéliste Moody qui disait « En ce moment, j'ai tellement à faire avec Moody que je n'ai pas le temps de chercher le péché de mon prochain. J'ai tellement de choses à faire avec Daniel que finalement, je n'ai pas le temps de chercher les péchés chez les autres. » Alors, accepter les autres, ça ne signifie pas que nous devons accepter ce qu'ils font. Nous allons être confrontés à des choses contraires à notre code de morale. Il y a des choses qui ne sont pas bien. Mais accepter les autres signifie que nous ne devons pas protester à chaque fois que les gens font quelque chose de mauvais. C'est vrai que pour construire une véritable amitié, on doit apprendre à ne pas prendre la place de Dieu. Ça, c'est primordial. Même Jésus, dans ses relations d'amitié avec ses disciples, bon, des fois, c'était clair, soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Quoi, vous dormez? Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi? Mais c'est un sentiment du cœur, il les a laissés après, il est allé prier tout seul, quoi. Il ne les a pas, allez, bougez-vous, quoi, alors les mecs, là, alors, vous faites quoi, là? Moi, je suis là, je suis des grumeaux, et vous êtes là en train de dormir? Ça va pas, ça. Vous êtes avec moi que pour le poisson et le pain, quoi. Si Jésus réagirait comme ça avec nous, on serait mal, On serait vraiment mal. Alors, je l'ai déjà dit, ça, la différence de la justice de l'homme, celle de Dieu pèse les sentiments cachés du cœur. Contrairement à la nôtre, la justice de Dieu tient compte de toutes les ressources des hommes. Toutes les ressources que nous avons reçues ou pas, famille, fréquentation, santé, éducation, les circonstances, l'époque à laquelle nous vivons, les lieux, les lumières, les avertissements, même ceux qui sont intérieurs. Dieu tient compte de tout ce que nous avons bénéficié ou pas. Et nous, humainement parlant, on ne peut pas faire la part des choses. On ne peut pas faire cette part-là, parce qu'on ne sait pas. Qui sommes-nous pour exiger des autres quoi que ce soit? Qui sommes-nous pour nous asseoir sur le trône de Dieu? Qui sommes-nous pour coller des étiquettes? Quel est notre devoir si ce n'est celui d'estimer les autres comme supérieurs à soi-même? Comme dit Paul aux Philippiens. Pour l'apôtre Paul, le premier des pécheurs, c'est Paul. Pour Pierre, c'est Pierre. Pour moi, c'est moi. Il y a un autre trait caractéristique de l'amitié, c'est l'encouragement. On peut facilement devenir des briseurs d'espoir. On peut facilement briser les espoirs des gens. C'est très facile. Hier soir, on a reçu une amie ça tombe bien, ils ne sont pas là. Samuel, il fait le CNED, donc il travaille, il fait ses devoirs par Internet, etc. Et je le vois qu'il bosse. Hein. Bon, des fois, il se lève un peu tard, mais il va bosser. Il bosse plus là que quand il était à l'école. Et il a bossé, mais c'est assez compliqué, il faut envoyer, enfin voilà, il n'a pas trop bien compris le truc, et puis nous, on s'y est pas trop, on n'arrête pas, donc on ne s'est pas trop intéressé comment il fallait faire, etc. Et du coup, il a des piles de trucs à envoyer, et puis, alors il est venu notre prof d'anglais hier soir, et, allez, elle était un peu rentre-dedans avec lui, quoi. Mais oui, mais tu as vu, là, pour le visa, là, pour le Canada, mais il demande des trucs, là, si tu fais pas tes devoirs, et... Mais lui, il a mal pris, quoi, parce qu'il était complètement découragé. Alors que moi, j'ai dit, mais c'est super, continue, travaille, c'est bien. Là, elle était, ouais, mais les papiers, mais t'as pas fait ça, et t'as pas fait ci, t'as pas fait là. Elle est un peu malade en ce moment, et elle est pas bien dans sa peau, elle aussi, donc on lui en veut pas. Mais on a vu Samuel qui était, waouh. Mais moi, je... Mais alors, en plus, elle lui dit, bah écoute, tes parents, ils partiront, vous me le laissez, hein, ils restent chez moi, hein. Et mon fils, il était là, il me regardait, il disait non, non, s'il vous plaît. On peut être décourageant, hein. Vous connaissez le prophète Néhémie ? Néhémie. Vous savez qu'il a reconstruit. Hein ? Alors imagine, Néhémie, tu n'es qu'un petit barman de la cour du roi. Je te l'accorde, tu t'y connais bien en cocktail. Mais est-ce vraiment toi qui veux aller construire les murailles de Jérusalem en plein territoire ennemi ? C'est toi ? Oui, le plan de Dieu m'est apparu clairement. Je ne veux pas seulement, mais je veux le faire et je peux le faire. Ouais, mais tu n'y connais rien en architecture. Qu'est-ce que tu veux aller faire là-bas ? Continue à faire des cocktails. Ils sont très bons, tes cocktails. Ne crois-tu pas que les plans de Dieu devraient être confiés à l'office municipal perse de la construction ? Franchement, Néhémie, mais réveille-toi, tu délires ou quoi ? Voilà. Et Néhémie, dégoûté de la vie, quoi. Il a mis 15 jours à s'en remettre, tu vois. Mais il est allé quand même. Qui sait ce qui se passe dans le cœur ? Dans la Bible, c'est très clair, et pour Jésus, il n'y a aucune ambiguïté. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et je suis sûr que Jésus a été impressionné lorsque les amis d'un paralytique ont cassé le toit d'une maison à l'intérieur duquel il était en train de prêcher. Carrément. Les potes, ils ont fait le tour, ils ont fait un trou dans le toit. Vous imaginez là, quelqu'un qui arrive et puis paf, il y a la poussière qui tombe là, au-dessus d'Acoche et là, vers Nicolas là. Tout le monde regarde là, tout le monde s'écarte, et puis en fait on fait descendre un paralysé. Waouh. Bon, il y avait plus de monde qu'ici, à mon avis, hein, ce jour-là. Mais impressionnant. Et je me pose la question, pour combien d'amis serions-nous prêts à pratiquer ce genre de choses pour qu'ils rencontrent Jésus ? On aurait pu parler aussi de David et Jonathan. Juste, je vais terminer là. Je vais vous lire, on va terminer juste par la lecture de quelques proverbes de la sagesse juive sur l'amitié. Et puis après, je terminerai par la prière. Alors, ce n'est pas des proverbes qui sont dans la Bible, hein, dans le canon des Écritures, mais ce sont des proverbes de la sagesse juive, des proverbes qui... Vous savez, il y a des proverbes, même des proverbes de Provence, et des proverbes qui sont très bien, qui... Par exemple, on reconnaît le maçon au pied du mur. Ça, c'est pas dans la Bible. Mais c'est vrai. Hein ? Alors, si tu acquies un ami, acquies-le en l'éprouvant, ne te fie pas trop vite à lui. Il y a l'ami compagnon de table qui ne restera pas au jour de la détresse. Celui-là, il est là que pour faire la fête. Un ami fidèle n'a pas de prix. C'est un bien inestimable. Un ami fidèle est un élixir de vie, ceux qui craignent le Seigneur le trouveront. Ah, dis donc. Ne forge pas de mensonges contre ton frère, ne fais rien de semblable contre ton ami. Ne délaisse pas un vieil ami, car un ami de fraîche date ne le vaut pas. Vin nouveau, ami nouveau, quand Quand il aura vieilli, tu le boiras avec joie. Ce n'est pas dans le bonheur qu'on reconnaît l'ami, mais dans le malheur, l'ennemi ne reste pas caché. Interroge ton ami, car la calomnie est fréquente. Ne te fie pas à tout ce qu'on dit. Si tu as sorti l'épée contre un ami, ne désespère pas, il y a possibilité de retour. Et c'est vrai. Parce que quand il y a l'amitié, quand il y a le cœur, ben, tout est possible. Si tu as ouvert la bouche contre un ami, ne crains rien, une réconciliation est possible. Mais outrage et arrogance, un secret trahi, un coup déloyal, voilà qui fera fuir n'importe quel ami. Je n'aurai pas honte de protéger un ami et je ne me déroberai pas devant lui. Qui dévoile des secrets ruine la confiance et ne pourra plus trouver d'amis selon son cœur. Pour un repas, le compagnon souffre avec son ami, mais au moment du combat, il saisit son bouclier. Tout ami dit « Je suis un ami, moi aussi ». Mais tel ami ne l'est que de nom. Quel chagrin voisin de la mort quand un compagnon et ami se change en ennemi. Alors maintenant, quand vous irez sur votre compte Facebook, vous vous souviendrez de tous ces proverbes. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu es notre ami et nous sommes tes amis. Seigneur, je te demande pardon parce que je réalise combien j'ai du mal à entretenir, à développer ce trésor qu'est l'amitié. Seigneur, aide-nous, nous dans ton église locale, ici, à Grasse, à développer ça entre nous. Donne-nous un regard bienveillant les uns sur les autres. Donne-nous l'authenticité des relations. Donne-nous aussi dans notre témoignage à l'extérieur, avec ceux qui ne croient pas en toi, aussi d'avoir de l'amour et de la compréhension, du tact. Donne-nous d'être de véritables amis. Seigneur, nous sommes convaincus ce matin que nous ne te suivons pas parce qu'il y a le ciel et l'enfer, mais nous te suivons parce que nous te connaissons, parce que nous sommes tes amis, parce que tu nous aimes, parce que tu as donné ta vie pour nous. Nous ne te suivons pas par intérêt, nous te suivons par amour. Donne-nous d'avoir le courage d'annoncer un tel évangile, mais surtout de le vivre. Et Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous qui sommes ici là ce matin, afin que tu nous gardes, que tu nous bénisses et que tu nous encourages à aimer encore plus et à vivre encore plus tes valeurs. Que nous soyons, par nos attitudes, des annonces de l'Évangile. Que notre attitude parle au-delà de ce que nous pouvons dire ou organiser ou faire. Seigneur, fais que ceux qui nous entourent et qui ne te connaissent pas soient attirés, Seigneur. Attirés par la communion fraternelle de notre Église, par les relations que nous avons les uns avec les autres. Attirés par toi. Qu'au travers de toutes ces choses, Seigneur, qu'ils puissent te voir toi tel que tu es. Rempli de gloire. Et d'amour aussi pour eux, parce que tu as tant aimé le monde. Veuille bénir notre Église, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ce matin. Amen.